Gloire au Seigneur, nous allons acclamer la parole du Seigneur. La parole de Dieu déclare, ou du moins nous invite, nous encourage, nous recommande de veiller sur notre cœur, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Il n'y a rien qui puisse avoir autant de valeur aux yeux de Dieu que notre cœur. Peu importe ce que nous faisons, si nous le faisons dans la chair sans que le cœur, notre cœur, ne soit pas motivé par l'amour, ne soit pas motivé par ceci ou par cela, et ce en conformité avec la parole de Dieu, bien tout ce que nous ferons n'aura pas de valeur aux yeux de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des dispositions du cœur dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de savoir que le Seigneur nous appelle à obéir à sa parole. Il ne s'agit pas simplement de se lever et puis de vouloir accomplir sa parole vaille que vaille. Mais encore, il s'agit de savoir que tout accomplissement de la volonté de Dieu qui est appelé ou qui glorifie le Seigneur doit se faire avec certaines dispositions de cœur. Amen. Les dispositions du cœur dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, le texte qui va nous servir est tiré d'un petit livre qui fait partie de ce que nous appelons. Est-ce qu'ils ont eu le thème ? Ils sont en grève ? Le livre qui va donc nous inspirer par rapport à cette réflexion, à cette méditation, fait partie de ce que nous appelons les petits prophètes. Vous savez, il y a des grands prophètes, des prophètes majeurs, comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel. Grands non pas par l'amplitude de leur ministère, mais grands par rapport au nombre de chapitres de leur livre prophétique. Vous prenez Ésaïe, c'est plus de 60 chapitres. Vous prenez Jérémie, c'est la même chose. Vous prenez Ézéchiel. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. Et aujourd'hui, c'est donc le livre de Jonas. Ok, nous allons lire dans Jonas, chapitre 1er. C'est un petit livre qui a à peine 4 chapitres. Et nous allons le parcourir très très vite. Nous commençons avec le chapitre 1er du livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, donc capitale de la Syrie à l'époque. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, et donc vraiment dans la direction opposée, puisque Ninive, par rapport à Israël, était à l'est, et lui part à l'ouest, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait là? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. On peut demander qu'ils intercèdent. Verset 11, ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Il préfère mourir que plutôt d'aller accomplir la volonté de Dieu. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent, parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chapitre 2, juste les deux premiers versets. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Et le verset 11, l'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Et le chapitre 3, les 5 premiers versets, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. » Et le verset 5 nous dit, « Les gens de Ninive crurent en Dieu. » Alléluia. Prédication formidable. Les gens ont fini par croire en Dieu. Et le verset 4, hélas, nous revenons au prophète. Cela fut très mal pris par Jonas qui s'est fâché. Allez-vous comprendre? Gloire à Dieu. J'aimerais donc, mes amis, attirer notre attention sur la règle d'or telle que nous la trouvons dans la parole de Dieu, à savoir faire la volonté de Dieu. S'il nous a donné sa parole, s'il nous parle d'une manière ou d'une autre, c'est pour que nous recevions sa parole, c'est pour que nous la comprenions et que nous finissions par la mettre en pratique. La parole n'est pas là pour, mes amis, nous amener à développer une très très grande intelligence, n'est pas là comme un simple savoir que nous sommes appelés à acquérir d'une manière ou d'une autre. Oui, faire la volonté de Dieu, l'accomplir dans notre vie. Voilà, mes amis, ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre ministère, eh bien, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous puissions accomplir, réaliser sa volonté dans notre vie. Et pour nous permettre de connaître sa parole et de la réaliser dans chacune de notre vie, eh bien, le Seigneur a mis à notre disposition les Saintes Écritures, la Bible, dans sa totalité, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et il nous a fait don du Saint-Esprit. Alléluia. La parole de Dieu nous révèle qui est ce Dieu-là, qui un jour s'est révélé à Enoch et a marché avec lui. La Bible nous révèle qui est ce Dieu qui un jour a appelé un homme qui vivait en Chaldée, à savoir Abraham, lui a fait tant de promesses qu'il a fini par accomplir. Qui est ce Dieu qui se présente comme étant le Créateur? Eh bien, à toutes ces questions, nous avons un moyen par excellence, les Saintes Écritures. Alléluia. Elles sont là pour nous révéler Dieu. Elles sont là pour mettre en évidence, pour nous révéler cette relation singulière, cette relation particulière, cette relation filiale que nous avons avec lui de par notre position en Christ. Car en Jésus-Christ, c'est Dieu-là qui a parlé à Abraham, qui s'est révélé aux prophètes à travers tout l'Ancien Testament, qui avait conclu une alliance avec Israël, eh bien en Jésus-Christ, ce Dieu-là est devenu notre Père. et nous sommes désormais ses enfants à part entière. Quel statut merveilleux, quel rang extraordinaire. Oui, elle nous révèle tout cela. Et en même temps, elle nous révèle ce qu'il attend de chacun de nous. C'est-à-dire, nous révèle ce qu'est sa volonté, ce qu'est son attente. Et son attente, c'est que nous puissions connaître sa volonté et la mettre en pratique. Voilà pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous révèle cette parole, mais qui en même temps nous donne cette capacité, cette puissance de mettre cette parole en pratique. Et c'est dans la mesure où nous mettons cette parole en pratique, cette parole qui exprime sa volonté, qu'alors nous marcherons avec ce Dieu-là, avec l'espoir de terminer notre séjour ici-bas avec lui et de passer dans l'éternité avec lui et par lui. Gloire au Seigneur. En d'autres termes, nous pouvons dire que nous sommes appelés, et ceci est notre vocation, nous sommes appelés, mes amis, à aller de la volonté de Dieu révélée à la volonté de Dieu réalisée. Oh, alléluia. Voilà le chemin sur lequel il aimerait que nous marchions. Chemin de la volonté qu'il nous révèle, sa volonté, mais aussi chemin de la réalisation, de l'accomplissement de cette volonté. Et ceci n'est pas du tout évident. Ça, je tiens à vous le dire. Et puis en plus, vous le savez tous. Ce n'est pas évident de prendre ce chemin, de demeurer sur ce chemin en accomplissant chaque jour qui passe sa volonté, à demeurer sur ce chemin, recevoir sa parole, et puis ensuite la comprendre, et enfin la mettre en pratique. Oui, ceci n'est pas du tout évident. Il y a dans la langue française une expression courante qui dit qu'il y a loin de la coupe à la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, entre l'intention et la réalisation, bien de choses peuvent intervenir. Vous avez soif, vous prenez un verre ou une coupe remplie d'eau ou d'une boisson quelconque. Votre désir, votre intention, c'est d'amener cette coupe jusqu'à la bouche, n'est-ce pas? Mais entre la coupe et vous, et votre bouche, il y a une certaine distance. L'intention est là, mais vous attendez la réalisation de cette intention. Mais entre les deux, beaucoup de choses, bien de choses peuvent intervenir. Juste au moment où vous soulevez la coupe pour boire, quelqu'un vous bouscule. Et qu'est-ce qui se passe? La coupe tombe, se casse et la boisson se renverse. Oui, il y a parfois loin de la coupe à la bouche. Et la Bible nous donne, avec l'exemple de Jonas, une illustration d'une volonté divine qui pleinement est connue par l'intéressé, mais une volonté qui ne s'accomplit qu'à contre-cœur. Voyez-vous? Une volonté clairement donnée au prophète de Dieu, mais une volonté qui va s'accomplir contre le gré du prophète. C'est donc l'histoire d'un homme, l'histoire d'un serviteur de Dieu, Jonas, à qui le Seigneur révèle sa volonté. C'était très clair. Il n'y avait rien à dire. Il n'avait pas besoin que quelqu'un lui interprète le message qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Non, pas du tout. C'était aussi clair que l'eau de roche. Un prophète qui comprend clairement ce que Dieu attend de lui. Mais c'est l'histoire, hélas, d'un prophète qui va essayer de se soustraire à la volonté de Dieu, de fuir loin de cette volonté divine, et qui finalement va donc l'accomplir, et ce, contre son gré, et ce, à contre-cœur, presque à regret. Voyez-vous, après avoir accompli la volonté de Dieu, nous l'avons lu, l'homme se fâche. Donc ça nous montre, mes amis, dans quel état d'esprit il a accompli cette volonté. Ça nous montre ce qu'étaient les dispositions de son cœur alors qu'il avait été amené à accomplir la volonté de Dieu. Mes amis, mis à part les autres thèmes que nous trouvons dans les livres de Jonas, eh bien ce livre est consacré à cette question. J'aimerais que vous me suiviez très bien, car nous sommes de plus en plus actifs dans l'œuvre de Dieu. Et beaucoup d'entre nous se lèvent pour faire ceci, pour faire cela, sans qu'ils prennent soin de s'asseoir, pour passer au crible les motivations qu'il y a dans leur cœur. Comme si Dieu s'intéressait plus par ce que nous faisons, et tout cela au détriment des motivations de notre cœur. Eh bien, ce livre est consacré à cette question. Voilà un homme prophète de son état, qui a connu la volonté divine et qui a clairement refusé de se soumettre et qui a finalement obtempéré. Voilà. Ça commence par la rébellion. Voyez-vous, au point où il va préférer la mort plutôt que d'aller accomplir la volonté de Dieu là chez les Assyriens. Ce qui est terrible avec Jonas est même surprenant, même ahurissant, c'est qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ce qui est un franc succès, puisque si vous lisez tout ce livre, je vous encourage à lire d'une traite ces quatre chapitres, et vous allez voir que sa prédication fut un franc succès. Malgré ce succès, malgré la réussite de son ministère, cet homme se met à bouder et à en vouloir à Dieu, à reprocher Dieu d'avoir pardonné aux habitants de Ninive. Allez comprendre. Ce qui interpelle, c'est son extraordinaire bouderie. Il se met à bouder. Il se fâche. Jonas, après avoir accompli à contre-cœur, contre son gré, la volonté de Dieu, nous le voyons exprimer sa déception de voir les gens qui habitaient cette grande ville, eh bien, se repentir, reconnaître leur mal, rejeter leur méchanceté et se mettre en règle avec Dieu. Et pourtant, tout ceci, les résultats, le réveil que Ninive a vécu, eh bien, tout ceci, mes amis, est bien arrivé par la vertu de sa prédication. Tout cela est arrivé parce que lui, Jonas, voyez-vous, a prêché, a proclamé la repentance, le message du Seigneur. Ce qui ne l'empêche pas d'en vouloir à Dieu, de lui dire, mais c'est pas possible. Donc tout en prêchant, il aurait aimé que le contraire se passe, que les gens restent dans leur péché, qu'ils poursuivent leur vie dans la méchanceté, dans l'idolâtrie et dans toutes sortes de péchés, jusqu'au jour où ils endurent la colère du Dieu des cieux. Ceci nous révèle, mes amis, l'état de son âme, l'état de son cœur, les dispositions dans lesquelles cet homme s'est levé pour accomplir la volonté de Dieu. Il avait du ressentiment dans son cœur vis-à-vis des Assyriens, qui étaient les ennemis d'Israël. Les Assyriens, c'était une puissance dominante de l'époque, avaient fait souffrir les Israélites, notamment le royaume du Nord, Israël, et lui savait tout ça. Et par rapport à tout ça, il n'avait qu'un désir, de voir Dieu consumer ce peuple, de voir Dieu juger son peuple. Voyez-vous, il n'avait qu'un désir, que ce peuple subisse le châtiment terrible, insupportable du Dieu de la Bible, et que ce peuple ne soit pas l'objet de la grâce divine. Voyez, cette situation, vous conviendrez avec moi, paraît surréaliste, voyez-vous, invraisemblable, quasi buesque. Cependant, les chrétiens qui marchent à contre-cœur dans la volonté de Dieu, des chrétiens qui marchent avec des motivations impures dans le plan de Dieu sont plus nombreux qu'on le pense.
Voyez-vous.
Nous avons tant de versets de la parole, par exemple, qui nous poussent à prier pour les autorités. Mais quand tu le fais, est-ce que tu le fais par amour pour le Seigneur? Ou alors tu le fais malgré toi? La Bible nous dit de prier pour ceux qui nous dirigent, à commencer par le président de la République, le premier ministre, les différents présidents de différentes chambres. Est-ce que tu le fais avec amour, ou alors tu le fais malgré toi? Il dit, d'ailleurs, il n'est pas de ma tribu. Ah! Soyez sincères, examinez-vous. Tiens, lui, il est là-bas. Bon, prions. Oui. C'est pas ce que Dieu veut. Nous devrions plus nous préoccuper des motivations dans notre cœur. Je me souviens de cette sœur, nous sommes à Bruxelles, qui évoluait dans une église et qui était très engagée à l'intercession. Nous sommes dans les années 80, la dictature ici bat son plein, et voilà que celui qui dirigeait l'intercession demande à ce qu'on prie pour le maréchal. Voilà. Qu'on prie pour les haïrs, notre pays, qu'on prie pour le chef de l'État et tout ça. Voilà qu'une sœur réagit. Heureusement, elle était sincère. Elle a dit, non, frère, comment voulez-vous que nous prions pour cet homme-là si nous sommes ici en exil? C'est à cause de cet homme-là. Et maintenant, vous nous demandez de prier. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Vous voyez, mes amis, on peut le faire simplement par formalisme, alors que le cœur n'y est pas. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Nous nous regardons aux actes, nous regardons aux actions. Mais pour Dieu, les actions n'ont qu'une valeur si derrière, il n'y a pas de motivation pure. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant aborder cette question des dispositions dans lesquelles nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu. Les dispositions dans lesquelles le Seigneur attend que nous accomplissions sa parole dans nos vies. Mes amis, accomplir la volonté de Dieu est une démarche où nous devons nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur, et cet accomplissement de la volonté de Dieu, cette réalisation de la volonté de Dieu répond à deux questions. À un double questionnement. La première question, elle est importante. Autrement, nous n'allons pas nous lever pour obéir. Obéir à quoi? Il faut d'abord comprendre, oui ou non. Il faut d'abord discerner la voix de Dieu. Il faut d'abord au préalable avoir compris ce que le Seigneur attend de toi. Eh bien, la première question est celle-ci. Seigneur, que me demandes-tu? Que ce soit dans nos moments de méditation personnelle, que ce soit, eh bien, au cours d'une prédication comme c'est le cas maintenant, que ce soit au travers d'une vision, d'un songe, d'un événement quelconque, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous devons toujours nous poser cette question, Seigneur, que me demandes-tu? Eh bien, cette question consiste à entendre la voix de Dieu, à discerner ce qu'il nous demande de faire. En d'autres mots, eh bien, cette question concerne le rhéma, comme nous l'avons vu. C'est-à-dire ce que Dieu me demande en particulier. Dans ce qui est en train d'être prêché, qu'est-ce que Dieu me demande? Ça, c'est la première chose. Je dois comprendre cela. Voyez-vous, cela est important. C'est pourquoi, mes amis, imposez-vous toutes sortes de disciplines personnelles pour lire, méditer régulièrement cette parole. C'est le moyen par excellence de la révélation de Dieu à l'homme, les Saintes Écritures. Mais aujourd'hui, beaucoup ont démissionné. Ils ont abandonné leur vie entre les mains des prophètes, des bishops, quadrichops, de toutes sortes de troubadours qui sévissent aujourd'hui. Les gens ne lisent plus la Bible. Ils préfèrent entendre des prophéties. Attention, attention. Ce que Dieu veut, c'est que toi, eh bien, tu grandisses dans sa connaissance. Et cette connaissance passe de manière inéluctable par une connaissance des Saintes Écritures. Mets-toi à lire. Ne dépends pas des gens. Ta vie n'a pas de prix. Tu risques un jour de le regretter. Et beaucoup aujourd'hui le regrettent parce qu'ils se sont appuyés sur un prophète. Je suis toujours étonné de voir dans tant de gens qui se disent prophètes alors qu'ils ne connaissent rien de la Bible. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille et se dire, mais c'est bizarre. Il vient tout le temps me dire que Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, ceci, mais lui-même ne connaît pas la parole de Dieu. Attention. Voilà la première question par rapport à ce double questionnement. Et ce en rapport avec la volonté de Dieu. Seigneur, que me demandes-tu? Et la seconde question, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, Seigneur, est-ce bien par amour de toi et pour toi, et non pas par devoir, et non pas par contrainte, et non pas par intérêt que j'agis? Dieu peut vous parler, Dieu peut vous demander de faire quelque chose. Mais avant de vous lever pour accomplir la chose, examinez vos motivations. Regardez les motifs. Mais dans la plupart des cas, comme nous allons le voir, eh bien, souvent nous réagissons pour nous mettre en valeur. Dieu a dit, par exemple, que nous devons faire un geste pour l'Église. Un geste assez important. Et puis nous obéissons. Et puis après, nous cherchons absolument que tout le monde sache que cette Jeep que nous avons donnée à l'Église, eh bien, elle vient de moi. Voilà. On veut absolument. On va même provoquer. On est quelque part. Et... Ah, c'est la Jeep de la borne. Ah, c'est très bien. Elle est belle, hein? Oui, oui, le Seigneur m'avait mis un cœur de faire don à l'Église. Attention. On le fait pour être vu. Afin que tout le monde chante notre générosité. Afin que partout nous passerons, qu'on nous pointe du doigt en disant, oh, c'est lui qui a offert cette belle Jeep. C'est lui qui a fait ceci. C'est lui qui a fait cela. Mes amis, le Seigneur promet des récompenses à tous ceux qui lui resteront fidèles jusqu'au bout. Et il pourra nous récompenser que pour des choses qui auront été motivées par de choses pures, qui auront eu pour motivation la gloire et la gloire seule de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que j'agis ou suis-je en train d'agir par amour pour le Seigneur, par amour pour les autres, ou suis-je en train d'agir au travers de cette ONG que j'ai créée, au travers de cette ASBL que j'ai créée pour s'occuper des orphelins, pour s'occuper des femmes abandonnées, des filles mères qui n'ont aucun soutien, ce qui est très très noble, ce qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Maintenant, suis-je en train de faire ça pour la gloire du Seigneur ou simplement pour que tout le monde sache que moi j'ai un cœur aussi gros que le soleil? Afin que partout on verra cet ASBL, eh bien qu'on parle de moi. Et on le voit souvent, hein. À l'approche des fins d'année, hein, les chaînes de télévision se frottent les mains. Parce qu'on vient les chercher partout, moyennant toujours quelque chose. J'en sais quelque chose. Il y a des gens qui sont venus me solliciter pour passer sur leur plateau, et en même temps après, bon, pasteur, vous allez prévoir quelque chose. Mais moi, je ne vous ai pas demandé quoi que ce soit. Ah oui, je sais. Alors on va ici, venez. Allez filmer. Et on voit la bienfaitrice, le bienfaiteur, imbu de lui-même. D'abord, on doit le montrer quand il descend de la Jeep. Et quand il descend, il ferme la veste. Et quelquefois, la veste se ferme difficilement parce que la bédaine, hein? Ah, dans ma pambole. Et on le suit. Et puis on filme. Maintenant, on peut le faire, appeler une chaîne de télévision simplement pour communiquer un fardeau. Parce qu'on a besoin que les gens vous aident. Il faut vivre aussi avec son temps, oui ou non. Il vous aide que vous ayez plus de moyens pour encore nourrir davantage tous ces orphelins, prendre soin de toutes ces femmes, etc. Le tout se passe au niveau du cœur. Agir par amour ou par contrainte. Mais qu'est-ce que vous voulez? On nous rabâche tout le temps les oreilles, dimanche après dimanche, écoutez, donner de l'argent pour la construction, ben bon, allez. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Voyez-vous? Agir par contrainte, agir par devoir, ou agir pour un intérêt quelconque. Je fais ça parce que je vise quelque chose. Vous voyez, mes amis, en nous tenant devant Dieu et en passant au crible nos motivations, eh bien, nous réaliserons tout de suite que dans la plupart des cas, les motivations, ou du moins les motifs derrière, ne sont pas purs. Est-ce que j'agis par amour, ou alors par contrainte, par devoir ou par intérêt? Se poser cette question, c'est regarder aux dispositions de nos cœurs lorsque nous nous levons pour accomplir la volonté de Dieu. C'est regarder aux motifs qui nous animent. Lorsque nous prenons le chemin de la révélation révélée, le chemin de l'obéissance, dans le but d'accomplir la parole de Dieu. Vous voyez? Il y a des gens qui se retrouvent quelque part à diriger une église et à murmurer parce qu'ils auraient aimé être à la Gombe. Ils auraient aimé être à Mbinza. Un pasteur m'a dit une fois, pasteur, là où nous sommes, il n'y a pas d'argent. Il dit, mais écoutez, on ne va pas commencer une église parce qu'il y a l'argent. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? On a voulu être pasteur. Maintenant, on peut même être pasteur. Mais contentez-vous, si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé dans ce coin-là, fais ce travail avec amour. Non pas en murmurant, non pas en enviant, en convoitant ceux qui sont au cœur de Kinshasa. Motivation. Pourquoi s'est-il levé? C'est qu'il y a un problème. Peut-être simplement pour avoir un titre de pasteur. C'est simplement pour qu'on sache qu'il est à la tête d'une extension, de la borne, en l'occurrence. Vous voyez, mes amis, se poser cette question, c'est essayer de regarder aux motifs qui nous animent lorsque nous nous levons pour prendre le chemin de l'obéissance et de la réalisation de la volonté de Dieu. Mes amis, pour aller plus vite, la seule motivation, le seul motif qui doit nous amener à accomplir la volonté de Dieu doit être l'amour pour sa personne. Encore l'amour pour lui est toujours l'amour pour Jésus. Je le fais parce que Seigneur, tu m'as demandé. Peu importe le prix que je dois mettre pour obéir, eh bien je le fais parce que je t'aime. Oh, alléluia! Parce que je t'aime, l'amour de sa personne. Eh bien, pour mieux comprendre cette vérité, nous allons très rapidement nous tourner vers un texte de l'Apocalypse où le Seigneur donne un enseignement de premier ordre sur l'importance... Attendez d'abord, vous voyez, maintenant, il me précède. Vous pouvez attendre, voilà. Et donc... nous tournons vers un texte de l'Apocalypse où le Seigneur nous donne un enseignement de premier ordre sur ce que doit être la motivation lorsque nous nous levons pour accomplir d'une manière ou d'une autre la volonté de Dieu. Il s'agit donc de la lettre que le Seigneur adresse à l'église d'Éphèse et où il est question du premier amour. Et quand on parle du premier amour, il n'est pas du tout question de comprendre cela comme s'il y avait dans l'amour des graduations. Premier amour, deuxième amour, troisième amour, quatrième, septième amour. Pas du tout. Il est question du premier amour, de l'amour suprême. Oh, alléluia. Alors, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Écoutez ce que le Seigneur dit à cette église d'Éphèse. Il commence par ceci. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Oh, quel sens aigu de la sainteté, hein? Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Quel discernement! une bonne théologie, n'est-ce pas? Une bonne doctrine, à la lumière de laquelle ben, le mensonge apparaît tout de suite. Tu as de la persévérance. Il insiste là-dessus. Hein. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Très très bien. Si le Seigneur s'arrêtait là-bas, oh, on aurait acclamé. Quelle église pentecôtiste. Quelle église merveilleuse. Une église qui persévère. On ne peut pas parler de persévérance s'il n'y a pas d'obstacle, oui ou non. On ne peut pas parler de persévérance s'il n'y a pas d'épreuve, si on ne passe pas par des moments difficiles. Mais cette église était une église persévérante. Était une église qui était active, qui prêchait la parole de Dieu. Une église qui pouvait discerner le bien du mal, qui pouvait savoir que cette doctrine vient du diable. Ce n'est pas la doctrine des saints apôtres, n'est-ce pas? Une très très bonne église. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il y a un mais. Mais, j'ai contre toi. Ah, comment est-ce possible? J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé et repens-toi. Ce sont des termes très forts. Souviens-toi d'où tu es tombé. L'Église aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un qui est tombé, c'est toujours dans l'immoralité, n'est-ce pas? Mais pour le Seigneur, le fait d'avoir abandonné le premier amour et qu'il voit une chute terrible qui demande de la repentance. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, il poursuit, je viendrai à toi et je carterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. La repentance, alors que c'est une église active, une église qui persévère, une église plus que dynamique. Mais le diagnostic du Seigneur est sans appel par rapport à cette église d'Éphèse. Le Seigneur commence par faire l'éloge de cette église. Une église qui a, dirions-nous, toutes les qualités, n'est-ce pas? Une bonne théologie. Voilà, ils avaient la connaissance vraie. Ils savaient que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le chemin. Ils savaient qu'il était le Fils du Père. Ils connaissaient l'importance du Saint-Esprit. Et donc, ils connaissaient, et à la base de cette connaissance, c'est qu'ils avaient une bonne théologie. Une église persévérante, de la persévérance. Peut-être même une église qui a connu des martyrs en son sein, à cause de ce qu'elle a souffert. Nous sommes à une période où l'église était sérieusement persécutée. Et quand on parle de persévérance par rapport à la souffrance, peut-être qu'au sein de cette église, il y a eu des martyrs. C'est-à-dire, il y a des hommes et des femmes qui sont morts à cause de leur foi en Jésus-Christ. Voyez. Mais, au-delà de tout cela, au-delà de ces éloges, cette église, mes amis, a perdu son premier amour. Et à cause de cela même, le Seigneur l'appelle à la repentance. Seul moyen pour cette Église de ne pas être exclue du corps du Christ. Le Seigneur est clair. Repens-toi, pratique tes premières œuvres qui avaient pour motivation le premier amour. Sinon, je viendrai vers toi, j'ôterai le chandelier, ce qui était clair, et ça sera fini pour toi. Ainsi, mes amis, ce texte dit clairement que la seule chose que le Seigneur attend de nous, nous qui sommes ses disciples, nous le troupeau de son pâturage, la seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous l'aimions en lui donnant la première place, la seule place qui lui convient. Oh, alléluia! L'amour, tout ce que je suis appelé à faire, je dois le faire par amour. Je dois prêcher par amour pour le Seigneur. C'est-à-dire, je prêche parce que j'ai une préoccupation. C'est de voir Les fidèles grandirent dans la connaissance. Alléluia. Mais je ne prêche pas pour avoir des enveloppes. Je n'organise pas des séminaires pour recueillir de l'argent et me permettre d'aller ici ou à gauche. C'est ça, prêcher pour l'amour. Être préoccupé par la croissance. Mais pour cela, on doit savoir dans quel besoin se trouve l'Église. Oui ou non? On doit savoir ce que le Seigneur attend de cette Église. Et non pas prendre des thèmes comme ça, simplement parce que ces thèmes sont prêchés à gauche, à droite, simplement parce que ces thèmes sont alléchants, sont attrayants. Voyez-vous, ça attire les gens. Venez, et la bénédiction d'Abraham tombera sur vous comme l'aigle. Ah, bénédiction d'Abraham. Voilà. On utilise des termes. Moi, je vous assure, quelquefois, je me dis, nous vivons un siècle difficile pour l'Église. Voilà. J'ai vu une fois une affiche qui parlait de l'ovulation spirituelle. C'est même malsain. Et vous avez des gens qui vont là-bas pour écouter, pour suivre ce genre d'enseignement. Des pasteurs qui se transforment en sexologues. Le Seigneur ne nous a pas appelés. Il y a des professionnels. La sexologie est une discipline scientifique. Nous pouvons en savoir un tout petit peu. Mais il y a des pasteurs qui se transforment en véritables sexologues, qui sont là pour donner des conseils intimes aux femmes. C'est impur. On peut acclamer le Seigneur. On voit de tout. Vous voyez, mes amis, la motivation n'est pas pure. Prêchez la parole. Marchez sur les traces des apôtres. Alors vous conduirez votre église là où le Seigneur l'attend. Prêchez des thèmes en rapport avec les besoins présents. Et non pas des thèmes simplement pour attirer les gens. On organise des croisades à gauche, à droite. Voyez-vous, mais dans la plupart des cas, on veut simplement voir de l'argent. Ah non. Vous savez que nous avons organisé notre croisade. Nous avons été conduits au travers de notre ministère. Et je peux vous assurer que ce qu'on a récolté là-bas n'a rien représenté. Mais c'est l'argent de l'Église affecté à l'évangélisation que nous avons utilisé. Voyez-vous. Le but n'était pas, après avoir fait passer les offrandes, eh bien que nous récoltions beaucoup d'argent. Non. Le but était de donner l'occasion aux perdus de comprendre, de connaître, de recevoir Jésus. L'amour pour Jésus, l'amour pour les autres, lorsqu'ils nous demandent d'agir d'une manière ou d'une autre, voilà ce que doit être la motivation de tout acte que nous posons. Pour comprendre très rapidement cette exigence de sa part, eh bien, considérons comment lui, Jésus, s'est donné à nous. Mais il s'est donné à nous par amour, oui ou non? Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur cette terre. Il a revêtu un corps semblable au nôtre, mais sans péché. Il est mort, cloué à Golgotha, tout cela par amour pour nous. Alléluia. Et donc, cet amour inégalable, insondable, incomparable, désintéressé, comme le disent les paroles de ce chant, un amour plus vaste que les océans, plus profond que les mers et plus haut que l'azur des cieux. L'amour de Dieu. Alléluia. Mes amis, lorsque le Seigneur constate que l'église d'Éphèse ne remplit plus sa mission au nom de son premier amour, mais plutôt par devoir, plutôt par contrainte, plutôt pour se donner une conscience, pour se donner bonne conscience, eh bien, il tire une conclusion claire. Cette église n'est plus dans l'alliance d'amour conclue avec elle à la croix. Il la menace, très logiquement, de se séparer de cette église, à moins que cette église se repente. Cette église a chuté. Le fait d'abandonner le premier amour équivaut à une chute aux yeux de Dieu. Et pour revenir à Dieu, il faut absolument une repentance. Jésus a dit à propos du premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il ajoute, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras. L'amour doit être, mes amis, la motivation première. Si le chrétien posait, posait au Seigneur une question du type, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. La réponse serait immédiate et lapidaire. Le Seigneur lui dirait tout de suite, je n'ai pas besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je n'attends de toi qu'une seule chose, que tu m'aimes et que tu me laisses agir en toi et à travers toi. Et obéir, c'est quoi? C'est laisser simplement le Seigneur accomplir sa parole à nous. Oui ou non? Il me demande de faire ceci, je le fais. En d'autres mots, en faisant le pas dans le sens de la parole qu'il m'a donnée, eh bien, je le laisse, lui, agir en moi. C'est ça l'obéissance. Alléluia. Oui, voilà ce que le Seigneur attend de nous. À Pierre, et je vais terminer par là, Jésus a posé trois questions. Nous l'avons vu il y a quelques dimanches d'ici. Pierre, m'aimes-tu? Combien de fois? Trois fois. Et trois fois, Pierre a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et trois fois, le Seigneur lui a dit, paie mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Sois le berger de mes brebis. Avant d'être berger, il fallait que l'amour soit là. Oh, alléluia. Mes amis, l'amour comme première motivation. Et Jonas n'a pas agi par amour. Il voulait que Dieu détruise les Assyriens, les Ninivites. Que Dieu nous aide, mes amis, à ne pas regarder seulement ce que nous faisons pour Dieu, mais à considérer d'abord et avant tout les motifs qu'il y a dans nos cœurs. Quand je fais cette démarche, suis-je motivé par l'amour pour le Seigneur, par l'amour pour son Église, par l'amour pour son œuvre, ou alors c'est une occasion pour moi de faire simplement une bonne action, une BA comme on dit, ou une action ou un geste pour que tout le monde sache que moi je suis le plus grand bienfaiteur de Kinshasa. Alors apprenons, frères et sœurs, à reconsidérer les motifs qui nous poussent à nous lever pour obéir à la parole du Seigneur. Acclamons son nom. Nous allons prier.